Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et on va examiner cette folie Napoléon dans Panorama avec nos invités. Bonsoir Arthur Chevalier.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, historien spécialiste de Napoléon. Vous avez été commissaire de l'exposition Napoléon en 2021 à Paris et auteur de Le cahier rouge des femmes de Napoléon. Ça a été publié par Grasset en 2022. Bonsoir Gérard Grunberg.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et historien, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur de Napoléon Bonaparte, le noir génie, CNRS édition. C'était en 2015 et vous me permettrez de signaler la réédition des livres d'André Casselot, Napoléon et Bonaparte aux éditions Perrin Biographie. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre.
Marlon Brando, Rod Steiger, Mathieu Kassovitz, d'autres encore, Christian Clavier, avant Joaquin Phoenix. Beaucoup sont risqués à interpréter Napoléon au cinéma.
Oui, les statistiques sont vertigineuses. 700 apparitions de Bonaparte sur grand écran, environ 350 à la télévision, plus d'une centaine d'acteurs. Napoléon, c'est l'un des personnages les plus représentés au cinéma et à la télévision pour Antoine Debacq. Une vie intense et fulgurante que même Sacha Guitry a mise en image en 1955. Mais pour beaucoup, c'est une mission impossible, comme Stanley Kubrick, qui a abandonné son projet biographique en 71. La plus illustre pour beaucoup de fans comme d'experts reste à ce jour la version muette d'Abel Gance, dont l'interprétation par Albert Dieudonné semble toujours être la référence, mais c'était en 1927.
Mais car apparemment, si le projet en lui-même est pharaonique, l'interprétation de Napoléon à elle seule est une prise de risque.
Oui, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Kubrick avait renoncé à son biopic. Impossible pour lui de trouver le bon acteur. Alors Joaquin Phoenix, qui va être à l'écran mercredi prochain, dans une interview accordée au JDD aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film, le perçoit comme, je cite, un romantique avec le cerveau d'un mathématicien, pas facile comme indication pour l'interpréter. Car si le profil, l'allure paraissent possibles à singer, la personnalité, les regards sont beaucoup plus difficiles à cerner, quitte à se ridiculiser. C'est souvent le reproche qu'on fait aux interprètes. En 2001, Christian Clavier a interprété Bonaparte pour la télévision. Il confiait dans une interview le voir comme un être complexe, contradictoire, fascinant même dans ses dessins les plus noirs. C'était une exceptionnelle mécanique intellectuelle. Un politique très fin, un génie militaire. Alors il confie que pour préparer son rôle, il a demandé à son maître Pierre Mondy comment jouer Napoléon. Il m'a dit « t'enfile le chapeau et tu penses à tes impôts, là t'as le regard ». Comme quoi tout conseil est bon à prendre pour interpréter Napoléon, surtout de la part d'un acteur qui est considéré comme le deuxième meilleur interprète de l'empereur selon un classement réalisé par le directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz, que l'on retrouve dans le Figaro cette semaine. Christian Clavier, lui, a été bien inspiré de le suivre. Il était troisième.
Merci beaucoup Capucine Patouillet pour ce panorama cinématographique de Napoléon. Est-ce que vous, justement, Monsieur Chevalier, vous allez aller voir le biopic de Napoléon ?
Je l'ai déjà vu.
Ah, vous l'avez déjà vu. Vous avez eu l'avant-première.
Oui, absolument.
Et alors ?
Ah, j'ai trouvé ça formidable.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
J'ai trouvé que c'était déjà une proposition artistique très singulière, peut-être une des plus originales qu'on ait jamais eue sur Napoléon, clairement. Je trouve que Joaquin Phoenix...
Parce qu'il y a le miroir, c'est ça, avec Joséphine.
Oui, d'ailleurs...
Sans cesse, en fait, des allers-retours.
Oui, sans cesse. C'est un peu exagéré, mais au fond, Napoléon a énormément aimé Joséphine. Alors, ça n'a pas eu toute l'importance dans sa carrière que Ridley Scott le dit, mais enfin, ça a eu une importance considérable. Donc, je trouve que c'était un très bon film. Très, très bon film.
Est-ce que Gérard Grunberg a vu le film ou est-ce qu'il compte aller le voir ?
Non. Oh, je le verrai probablement, oui.
Oui, vous dites ça un peu par-dessus de la jambe. Ça a pas l'air de vous intéresser plus que ça.
Non, c'est pas ça. Mais si vous voulez, je m'intéresse essentiellement aux aspects politiques de Napoléon. Je serais content de voir ce film, hein, tout à fait. Mais je reste encore... quand on parle de Napoléon, j'aime beaucoup le film de Sacha Guitry qui s'appelle Le Diable Boiteux, qui est une autre version, une autre façon de voir Napoléon.
Aujourd'hui, l'actualité de Napoléon aujourd'hui, comme par hasard, mais enfin, je pense que Jean-Pierre Ozena fait bien les choses aussi dans sa maison de vente, ça a été cette adjudication d'un bicorne, un des 120 bicornes, en tout cas un des 20 où on est sûr que c'est les siens, à 1 932 000 euros. Est-ce que c'est quelque chose qui vous catastrophe, c'est quelque chose qui vous remplit de joie? Est-ce que vous trouvez ça normal que un objet finalement si vain mais à la fois symbolique soit adjugé presque 2 millions d'euros, Gérard Grunberg?
Ça peut très bien. Hein. Écoutez, il faut quand même bien voir que Napoléon reste sur les derniers siècles, on peut remonter en siècles, la personnalité non pas seulement française, mais bien au-delà, qui caractérise la gloire militaire, la grandeur, la grandeur de son pays. Donc, ça me paraît tout à fait possible qu'on vende un bicorne de Napoléon à des sommes astronomiques.
Arthur Chevalier, sur le chapeau et sur la grandeur militaire, et sur le côté, j'allais dire, worldwide, en bon français, de Napoléon.
Mais bien sûr, c'est d'ailleurs la question qui se pose avec le film de Ridley Scott, c'est-à-dire que Napoléon est un de nos meilleurs produits d'exportation, c'est ça la vérité. Et on ne peut pas dire que la France aujourd'hui s'exporte si bien que ça, il n'y a pas tellement de motifs de gloire à l'échelle internationale. Et effectivement, après le grand succès de notre littérature, celui de notre histoire est une dernière chose qui nous reste, et Napoléon est clairement notre meilleur représentant. Et ça prouve aussi que du coup, il subit un phénomène d'acculturation, c'est-à-dire que tout le monde se l'approprie, tout le monde en fait chose sienne, si on peut dire. Évidemment, il en sort toujours un petit peu ébouriffé, mais c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est la destination de tous les objets populaires.
Je disais tout à l'heure en introduction que Napoléon avait été aussi unique qu'éphémère dans la longue histoire de France. C'est-à-dire que ça a été un coup de turbo, un espèce de feu follet de quelques années seulement. Et en même temps, sur ces quelques années, il s'est imposé comme, je pense, l'un des personnages historiques les plus flagrants de l'histoire de France.
Et à l'échelle des règnes de l'histoire de France, il n'a pas régné si peu de temps, en fin de compte, hein, puisque ça a quand même duré un peu plus, 15 ans, quoi, en gros. C'est pas énorme, mais c'est pas si peu. C'est surtout, évidemment, la masse de choses qui a été réalisée à ce moment. Évidemment, bon, les conquêtes militaires, en tout cas les guerres, on les connaît, l'enfilade de victoires. Mais il est toujours bon de rappeler que la France ne s'est jamais autant réformée que sous Napoléon, je veux dire y compris relativement au passé et à l'avenir, et de façon aussi durable, puisque nous marchons au quotidien dans la France de Napoléon. Et l'Europe elle-même, d'ailleurs, marche aussi au milieu de Napoléon, parfois sans le savoir. Donc effectivement, personne en 15 ans n'a réalisé de choses aussi durables, et pour notre pays, c'est un cas tout à fait exceptionnel.
Gérard Grünberg, qu'est-ce qu'il faut retenir de Napoléon? J'imagine que la liste est longue.
Oh ben écoutez, beaucoup de choses. Mais je vous citerai simplement cette très belle citation des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, qui pour moi, après les recherches que j'ai faites sur Napoléon, me paraît tout à fait exacte, tout à fait bien vue, intelligente. Il dit la chose suivante. « Bonaparte était un poète en action, un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable, habile et sensé dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples et tant d'autorité sur le jugement des hommes positifs. Mais, comme politique, ce sera toujours un homme défectueux aux yeux des hommes d'État. Cette observation échappée à la plupart de ses panégyristes deviendra, j'en suis convaincu, l'opinion définitive qui restera de lui. Elle expliquera le contraste de ses actions prodigieuses et de leurs misérables résultats. » Ben, voilà, ça c'est exactement ce que je pense. Alors je ne suis pas sûr que sa prédiction soit exacte, car je crois qu'il est toujours considéré comme un des astres, on peut dire, de la politique, et bien au-delà, comme un très grand capitaine depuis... Parce que ça n'a jamais cessé, la gloire de Napoléon, de son vivant, puisqu'il a sculpté lui-même sa statue avec le mémorial de Sainte-Hélène, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais cessé, quels que soient les régimes.
Et comment est-ce que vous expliquez... on peut dire même une sorte de haine de Napoléon. Est-ce que c'est que de l'envie et de la jalousie?
Ah, haine de Napoléon. Oui, il y a eu un livre noir. Il y a eu des haines de Napoléon dans l'histoire. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a tant de haine que ça de Napoléon. Je ne suis pas sûr.
Il y a deux camps. Il y a les napoléonistes et les anti-napoléonistes, pour faire simple.
C'est vrai que l'historiographie française est plutôt favorable à Napoléon, il faut bien le dire. Je lisais l'interview de M. Lenz hier, aujourd'hui, je ne sais pas,
était aujourd'hui très caractéristique dans le JDD.
Aujourd'hui, voilà, très caractéristique de cela. Bon, moi, je ne suis pas contre Napoléon, ça n'a pas de sens de dire on est contre ou pour Napoléon. Par contre, je pense effectivement que d'un point de vue politique, ça a été un échec assez important, dont on a porté d'ailleurs pas mal de temps les conséquences, hein, et en particulier de la manière dont il s'est comporté vis-à-vis de l'Europe, la manière dont il a mené ses campagnes, la manière dont il a mené sa diplomatie, ou plutôt sa non-diplomatie, puisque comme le disait Talleyrand, c'est la diplomatie de l'épée, Napoléon, qui nécessairement l'amenait au désastre, qui a été le désastre de 1814 et 1815. Moi, je suis très, très, très critique à l'égard de Napoléon, mais je ne suis pas contre ou pour Napoléon, et je suis obligé de reconnaître, on vient de le dire, tout au long de depuis qu'il est mort, et même de son vivant, il est apparu comme un personnage extraordinaire. Donc voilà, il est un personnage extraordinaire que moi, je critique beaucoup sur le plan politique, aussi bien sur sa conception du régime politique lui-même, hein, cette espèce de de dictature, on peut dire, qu'il a exercé sur la France, la manière dont il a traité les pays étrangers incapables d'établir un ordre européen avec son grand empire. Voilà, donc on peut en discuter.
On en discute, André. Arthur Chevalier va vous répondre.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord déjà parce que Napoléon, en fait, a traité les autres comme on l'a traité. Je veux dire par là que il arrive comme le représentant de la modernité politique portée par la Révolution française. Il arrive avec des principes qui sont complètement inconnus des monarchies d'Europe à ce moment-là. Je rappelle que Napoléon Bonaparte, dans la plupart des pays qui rallient la France, entre guillemets, le servage est aboli. On leur donne un code civil, c'est-à-dire le début de l'état de droit. Hein, c'est quand même pas rien dans l'histoire de la politique. Donc Napoléon est, qu'on le veuille ou non, le représentant en Europe de ce qu'on pourrait appeler le début de la rationalisation de l'exercice de l'État. Hein, ce n'est pas l'État du bonheur, c'est juste une façon de fonctionner un peu plus rationnelle et dans laquelle les gens ont l'impression d'avoir une prise un peu plus importante. Et ça, quand même, il l'a importé en Europe. D'ailleurs, regretter les guerres de Napoléon, ça n'a pas de sens. Si il n'y avait pas eu les guerres de Napoléon, on n'en parlerait même pas. Napoléon n'était effectivement pas un très bon diplomate. En tout cas, il n'aimait pas la diplomatie. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si Napoléon avait été un très bon diplomate ? Il y aurait eu la moitié de ce qu'il a fait, donc il ne serait juste pas le phénomène aussi passionnant qu'il l'est. Donc ça revient à aimer à la fois, enfin contredire, comment dirais-je, mettre en opposition la pluie et le soleil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des choses qui doivent fonctionner l'une avec l'autre. Et puis enfin, chose à mon avis très importante à retenir à propos de la postérité politique de Napoléon, il a quand même inventé en France, et c'est très très paradoxal, la rationalisation parlementaire aussi. Il n'y avait pas une, pas deux, il y avait quatre assemblées sous l'Empire. Alors oui, évidemment, leur travail...
Vous allez répondre à Arthur Chevalier dans un instant.
Je dis très sérieusement qu'il y a une rationalisation... Je parle sérieusement, je dis qu'il y a une rationalisation du travail parlementaire qui a été effectivement tout organisé pour que ce soit dilué et qu'il soit tout à fait inférieur au pouvoir exécutif, c'est vrai. Mais enfin, si nous travaillons dans les assemblées avec des sections, des commissions dédiées et tout ça, c'est néanmoins Napoléon qui l'a aussi instillé. Donc je ne dis pas qu'il y avait beaucoup d'équilibre politique, je dis qu'il y a des traditions politiques qu'il a créées aussi et malgré lui parfois. Voilà.
Réponse de Gérard Grunberg.
Écoutez, tout ça est totalement faux, hein, mais factuellement faux. Il a passé 20 ans à essayer de détruire tout le travail des assemblées, tout travail parlementaire, toute liberté parlementaire. Alors, je suis vraiment stupéfait d'entendre une chose pareille quand on a travaillé sur Napoléon. Vraiment, là, je suis tout à fait étonné. Il faut bien voir, il ne supportait pas. Il appelait les bavards les parlementaires. Oui. Il est fiché dehors quand il en a. Incroyable de pouvoir dire aujourd'hui des choses pareilles.
Je ne suis pas en train de dire que Napoléon adorait le parlementarisme.
Vous dites qu'il a inventé quasiment le travail parlementaire.
Non, pas du tout.
Mais c'est se moquer du monde, ça, vraiment.
Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que j'essayais d'apporter un contrepoint à votre propos qui était la dictature, pour rappeler qu'il y avait sous le consulat des assemblées. Que quand d'ailleurs l'une d'elles a disparu, elle s'est autodissoute à sa propre majorité, vous le savez très bien, aussi bien que moi. Je dis qu'évidemment, il les a divisées entre une assemblée qui pouvait commenter la loi sans la discuter, qui pouvait commenter la loi sans la voter, et une autre qui pouvait la voter sans la discuter. Donc évidemment, il a tout fait pour minimiser leur influence. Mais je dis que paradoxalement, Napoléon ne gouvernait pas tout seul, ça n'est pas vrai, pour la bonne et simple raison qu'il avait des oppositions. Et d'ailleurs, ces mêmes assemblées se sont opposées à bien des projets, même s'il ne les a pas toujours écoutés, ces oppositions ont existé. Donc j'essayais de mettre une nuance là-dedans, en disant que Napoléon, ça n'a pas été la dictature d'une personne sur la France qu'il a dû gouverner avec une élite issue de la Révolution française, des grands républicains juristes comme Cambacérès par exemple, et qu'il a dû dealer avec tout ça. Ça a existé. On ne peut pas gouverner seul un pays qui sort de la Révolution française. C'est une ineptie.
Monsieur Grunberg, vous pouvez répondre à Arthur Chevalier, mais argumentez votre propos, parce que vous pouvez vous esclaffer, mais je comprends votre colère même peut-être, mais on aimerait bien en savoir un peu plus sur ce qui vous déplaît dans l'argumentation de Monsieur Chevalier.
Il n'y a pas d'argumentation. La vérité, c'est que Napoléon a détruit les assemblées. D'ailleurs, à la fin, il ne les convoquait plus. Il a dissous le tribunal. Tout ça est exactement contraire.
Le tribunal s'est autodissous, c'est faux.
Oui, vous savez pourquoi il s'est autodissous ? D'autre part, Napoléon s'est entouré.
On ne saura pas. Vous savez, Monsieur Grunberg, le problème, c'est que on n'a pas toutes les connaissances que vous avez avec Monsieur Chevalier.
Oui, Je vous dis. Au début, Napoléon s'est entouré des meilleurs, Péron, Fouché, Cambacérès, etc. Des meilleurs qu'il y avait. Plus il a pris le bout du pouvoir, plus il n'a plus écouté personne. À partir de 1808, il n'a écouté personne. Il s'est engagé dans cette histoire d'Espagne, dont il dit lui-même. dont il dit lui-même dans le mémorial que ça a été sa plus grave erreur. Il est parti en Russie où il a fait détruire totalement son armée. Et ça, parce que quand Macérès, Monsieur Chevalier parlait de Macérès.
Non, mais on est d'accord
quand Macérès l'a supplié de ne pas partir en Russie, il lui a dit mais c'est une folie. Les Allemands, ils n'écoutaient plus que lui. Il méprisait Alexandre, bien à tort d'ailleurs, le l'empereur de Russie, et il est parti avec 700 000 hommes, il est revenu avec 15 000 hommes. Donc, non, je suis désolé, c'était un dictateur, et personne ne dit, personne, à partir
mais
de...
arrêtons d'employer des mots qui ne veulent rien dire comme ça, dictateur. C'est un mot qui est, c'est un mot qui, vous le savez très bien, qui renvoie à un statut qui date de l'époque de la fin de la République romaine. C'est, ça ne s'applique pas du tout à Napoléon, ce n'est pas le mot. D'ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu'il y avait une constitution. Vous savez aussi bien que moi que... Et ça a fonctionné de façon beaucoup plus rationnelle que vous dites. Et vous savez aussi bien que moi d'ailleurs que toute, vous l'avez dit, que toute l'élite du directoire ou quasiment était favorable à sa prise de pouvoir, puisqu'ils étaient tous impliqués dans le coup d'État. Donc ce que je veux dire, c'est que la personne qui voulait le plus Napoléon au moment où il est arrivé au pouvoir, c'est la France elle-même. Mais on est d'accord sur le fait qu'à partir de 1808-1809, effectivement, ça commence à vriller un peu, que tout à coup...
C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de vide historique où, on savait, où la France ne savait plus trop où elle allait. Elle avait sans doute peut-être des regrets, d'ailleurs, du régime d'avant, c'est-à-dire d'avant 1789. Et il a saisi l'occasion pour trouver et pour... Comment est-ce qu'il est arrivé, d'ailleurs, au pouvoir? Est-ce qu'on peut le rappeler à nos auditeurs qui n'ont pas, encore une fois, ni la connaissance, la vôtre, M. Chevalier, ni celle de M. Gondemer?
Alors, c'est assez intéressant parce qu'il faut inscrire Napoléon dans la Révolution française. La Révolution française, quand elle se débarrasse de son pouvoir exécutif, le roi, d'accord, en fait, elle va très rapidement chercher, parce que c'est un équilibre indispensable à un régime politique, à reconstituer ce pouvoir exécutif. Alors d'abord, elle va se donner de façon un peu tacite, eh bien, des comités. Le comité de salut public, voilà, bon, il y en aura deux. Puis ensuite, elle va en avoir cinq avec le directoire. Puis ensuite, elle va en avoir trois avec le consulat. Et puis effectivement, elle va en avoir un avec un empereur qui néanmoins ne supprime pas le statut de la République. Napoléon arrive au pouvoir par le biais d'un coup d'État, on va appeler ça comme ça. Mais un coup d'État qui, effectivement, est un coup d'État quasiment institutionnel, puisque dans le coup étaient des hommes comme Talleyrand, comme Fouché, comme plusieurs des directeurs qui étaient à l'époque les premiers magistrats civils de France. Donc, de toute façon, le directoire était à l'agonie. Il fallait sauver globalement cette élite républicaine sous peine de voir la monarchie se restaurer. Et donc, tout le monde a vu en Napoléon, y compris Sieyès d'ailleurs, eh bien, l'homme fort, le général très populaire, qui pouvait...
L'homme providentiel.
Non, oui, enfin, disons, la personne la plus populaire, la plus à même de récupérer le pouvoir et qui collait le mieux à ce qu'attendaient les Français à cette époque-là.
Voilà. Gérard Grunberg, votre vision à vous.
Ben, c'est exactement la même, ce qui vient d'être dit est parfaitement exact. Napoléon est paru effectivement l'homme providentiel pour sortir de la Révolution, la crise du directoire. On est absolument d'accord avec ça. Et il a été un des... Bon, ensuite, c'est lui quasiment qui avait la constitution de fin 1799. Et c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Il fallait voir aussi ce qu'était le bazar en France après toutes les années de révolution. Il a voulu finir la révolution, il l'a dit d'ailleurs. Donc tout ça est exact. C'est pas ça sur quoi je suis en désaccord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Là où je suis en désaccord, c'est sur la manière dont il a exercé le pouvoir. S'il avait été raisonnable, il n'aurait pas fait la moitié des choses qu'il a fait.
Mais il n'intéresserait personne s'il était raisonnable.
Pardon ?
Il n'intéresserait personne s'il avait été raisonnable.
À ce moment-là, Hitler n'intéresserait personne s'il
avait été raisonnable. Monsieur, je vous en prie, quand même.
Non, mais je ne suis pas en train de comparer les deux.
Sur les comparaisons, il faut être prudent sur les comparaisons, quand même.
Quand même, mollo.
Mais non, je ne dis pas du tout qu'il faut les comparer. Je dis de ce point de vue-là que même les gens qui ont fait des graves choses, ils vont attirer la lumière, évidemment. Napoléon a attiré la lumière. Évidemment que c'était un très grand capitaine. Je dis simplement qu'au cours des années... D'ailleurs, son régime ne lui a pas survécu, évidemment. Et au cours des années, il est devenu de plus en plus impopulaire. Et surtout, il a ligué contre lui, et ça, quand on est dans la politique, c'est quand même très important, il a ligué contre lui toute l'Europe. Et ce n'était pas facile de liguer contre lui toute l'Europe. Tellement tout le monde voulait s'en débarrasser avec le bouleversement qu'il avait fait en Europe, sans rien construire, d'ailleurs.
Vous exagérez un peu, il reste des codes civils dans certains pays, il n'y a pas rien de l'époque napoléonienne. C'est quand même l'inventeur de la première grande politique d'assimilation avec des fonctionnaires européens qui étaient... Vous aviez des fonctionnaires français qui étaient issus d'autres pays. Vous dites oui, mais enfin, c'est des choses qui n'existaient pas avant, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu rapide, je suis d'accord avec vous pour dire que Napoléon est l'autorité l'autoritarisme, c'était une vraie passion, qu'il a régné en personne très autoritaire, mais néanmoins, ça n'a pas été une dictature complètement irrationnelle, ça n'est pas vrai. Et il ne reste pas que des marques de son autorité et de son despotisme. Il reste des choses, au contraire, très très constructives et qui s'assimilent tout à fait à des régimes tout à fait républicains.
Bon, en tout cas, Arthur Chevalier, en allant voir le film de Ridley Scott, on n'apprend pas la moitié du quart de ce qui a été dit dans cette émission,
non,
on est bien d'accord.
Non, c'est pas vrai, ça va. On apprend des choses, il y a beaucoup d'anachronismes, il y a des erreurs historiques, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Napoléon, c'est pas si inintéressant.
Bon, moi, je propose en tout cas qu'en complément, on lit votre livre, Le cahier rouge des femmes de Napoléon, qu'on lise celui de Monsieur Grimberg, dont on a une liaison malheureusement très mauvaise, Napoléon Bonaparte, le noir génie aux éditions du CNRS. Et puis voilà, on sera une idée sur Napoléon, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Et comme le disait d'ailleurs M. Grunberg, il est peut-être pas forcément de bonne aloi d'être, d'être contre Napoléon. Il faut, juger de certains aspects de sa politique.